aimé savoir que la vie d'adulte était une arnaque. Une grosse arnaque, je t'assure. Parce que quand on est enfant, on a l'impression que le monde est super grand, super beau, que du positif, et que c'est parce qu'on est enfant qu'on n'arrive pas à jouir de tout ça, alors que la vie d'adulte, personne ne nous dit que, ah, ma soeur, ma fille, quand tu deviens adulte, voilà les responsabilités qui vont avec, voilà ceci, voilà cela. Personne ne nous dit ça, alors que franchement, à aucun moment dans la discussion avec ma mère, à aucun moment dans la discussion avec mon père, l'un d'entre eux m'a dit que, ah, ma chérie, si tu fais tel choix, voilà les responsabilités qui s'accompagnent. Ils te diront probablement, si tu fais tel choix, ah, il faut savoir que moi, je ne suis pas derrière toi ou ceci ou cela. Mais jamais on t'explique que voilà, il y a telle responsabilité que tu vas devoir assumer jusqu'au bout. Que voilà, genre, voilà vraiment quoi. La vie d'adulte est une arnaque pour moi, franchement. Mon vrai souci, c'est que j'aurais vraiment voulu savoir que la vie d'adulte, c'est pas facile, parce que ça résume vraiment tout ce que j'ai pu traverser, que ce soit les déboires en amitié, parce que j'ai vraiment eu un gros goumet amical. Hé, Seigneur, ceux qui n'ont jamais eu goumet amical là. Parce qu'avec les amis, tu ne t'y attends pas, tu t'attends pas à ce qu'il y a un problème dont vous ne puissiez pas parler et du jour au lendemain, vous vous éloignez. J'ai appris sur le tas, ou bien j'ai appris comme ça, que les amitiés, c'est pas forcément pour toute la vie. Et c'est l'une des plus grandes.
Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reçois Floriane à côté qui va nous parler d'elle, qui va nous partager son vécu, qui va nous parler du fait qu'elle a pu s'adapter sur le marché de l'emploi, donc adéquation ou plutôt inadéquation entre diplôme et marché du travail à Lomé au Togo. Elle vous parlera également du rôle de son père dans son indépendance aujourd'hui. Elle nous parlera de sa vie sentimentale, une manière de parler, et disons qu'elle nous a décrit un peu les exigences qu'elle recherche chez un homme. Au-delà de ça, on a parlé aussi du chef de famille dans nos sociétés africaines. Donc, bien évidemment, on a abordé le sujet du féminisme, disons dans son entièreté, si on peut le dire ainsi. Donc, je vous laisse écouter tranquillement ce que Floriane nous a partagé dans cet épisode. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous pour la conclusion. On se dit à tantôt. Vous êtes très bien dans l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Et je suis Edengwe Toglo. À tantôt. Bonjour Floriane à côté. Comment tu vas?
Très bien. Bonjour Eden. Bonjour à tous les auditeurs qui écoutent ce podcast.
Ça fait plaisir de t'avoir dans cet épisode. Je pense que tu as beaucoup de choses à me partager, un peu comme tu le fais sur Twitter déjà. Mais je pense que cette fois-ci, tu iras encore plus en détail. Et ça me fait plaisir vraiment de t'accueillir dans mon univers, tout simplement. Alors, Floriane Akwete, qui es-tu, s'il te plaît?
Alors, pour commencer, déjà, moi aussi, je vais te remercier pour m'avoir fait l'honneur de m'accueillir dans ce podcast. Alors, qui je suis? Je suis née de la famille Akwete. Et ma mère a décidé de m'appeler Floriane, mon père a décidé de m'appeler Clinclin. Et chez nous, selon la lignée de naissance, je suis Dédévi. La première fille ou l'une des filles de mon père. Donc, côté nom, c'est moi, ça, c'est des débuts sur rien, rien à côté. Qui je suis? Je suis une Togolaise de 29 ans. Je travaille en tant que gestionnaire de projets de développement. Je suis diplômée d'une licence en sociologie. En plus de cela, j'ai d'autres diplômes que j'ai obtenus de d'autres formations complémentaires en lien avec ce que je voulais faire dans la vie. Voilà un peu ce que je peux dire de moi. Je ne sais pas si tu es intéressée par d'autres formations.
Merci beaucoup Floriane pour ta présentation. Donc si j'ai bien compris, tu as eu un diplôme en psychologie?
Non, en sociologie.
En sociologie, d'accord. Ok, oui. J'avais compris psychologie. Ok, non, d'accord, non, c'est correct. Et donc du coup là, tu travailles dans la gestion de projet, etc. Et je suppose que tu as une certification dans ce domaine également.
Oui, tout dernièrement, j'ai obtenu une certification du nom de PMP Pro. Une certification internationale sur la gestion de projets de développement, surtout dans le développement, dans le domaine du développement, qui permet en fait de travailler, d'avoir un canevas de gestion de projet assez uniforme qui me permet de travailler avec beaucoup d'organisations internationales sans pour avoir des difficultés, parce qu'en fait, chaque organisation internationale a sa manière de gérer un projet. Et le PMDPro, en fait, est un ensemble de toutes ces fonctionnalités au sein des organisations internationales qui permet à toute personne qui a cette certification-là de pouvoir travailler ou s'intégrer aisément dans leur domaine, dans leur manière de travailler.
D'accord. En tout cas, excellent. Félicitations déjà pour cette certification. Et bon vent justement dans ton avenir professionnel ou dans ton parcours professionnel.
Merci.
D'accord, ok. Et du coup, Floriane, ce que moi je veux savoir, c'est est-ce que tu penses que ton parcours académique a été vraiment bénéfique à tes espoirs professionnels actuellement?
Mon parcours académique. Alors, je pense que oui. Un peu comme plusieurs personnes au Togo actuellement, j'ai eu un parcours assez atypique, si je peux le dire ainsi. J'ai eu mon bac, ensuite je suis partie à l'université. L'université, je voulais faire mille et une choses, mais il fallait choisir. Et donc, j'ai fini par choisir la sociologie, disons entre guillemets par dépit, parce qu'au départ, je voulais faire la Sciences Po. Mais la Sciences Po se trouvait à Accra et ma mère n'était pas vraiment pour m'envoyer à Accra toute seule. Alors donc, je suis restée à Lomé et j'ai choisi de faire la sociologie. Pendant que j'étais en plein cursus, le LMD est arrivé, ça a compliqué les choses. On ne se retrouvait pas vraiment avec le LMD. Et donc, en attendant de valider mon diplôme, j'ai décidé de faire assistante de gestion. En formation modulaire. Donc, pendant au moins 6 mois, je jonglais entre les cours du soir dans une université privée en termes de formation modulaire et au campus en cours du jour ou selon le programme. Et donc, après, cela m'a permis, bien que je n'avais pas encore validé mais toutes mes unités d'enseignement à l'université, cela m'a permis de faire 2 petits pas, si je peux dire ça, dans le monde du travail. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire des petits stages en secrétariat, en comptabilité. Et donc, après j'ai tenté. Le secrétariat n'était pas vraiment pour moi, donc... À un moment donné, je me suis dit, OK, Floriane, concentre-toi sur tes études, finis ta licence et obtiens-la et cherche vraiment un truc dans ton domaine. Et c'est là que je me suis vraiment concentrée sur la dernière année de ma licence que j'ai pu valider. Et peu de temps après, j'ai trouvé un stage qui n'avait rien à voir avec mon diplôme également. Dans un cabinet RH de la place. Et comme j'étais également intéressée par la RH, je me suis dit, tant mieux, j'y vais. Et je suis allée. J'ai fait pratiquement un an et demi dans ce cabinet-là, entre un poste de chargée de centre d'affaires qui était un poste où j'étais une sorte de commerciale. Il fallait aller chercher des clients, il fallait faire la promotion de la domiciliation d'entreprise, il fallait faire la promotion d'espaces de travail bien équipés, espaces de coworking. Et donc, ça m'a également donné un certain nombre d'expériences que je ne pensais pas acquérir au niveau comportement, relations entre clients, relations entre un professionnel et son client, voilà. Et d'autres types de partenariats, des compétences en fait que je n'aurais pas pu acquérir en étant restée uniquement dans le monde de la sociologie ou en ayant suivi mon parcours scolaire sans embûche. Donc aujourd'hui, toutes ces expériences que j'ai eues en dehors de mon parcours de licence, de mon parcours académique, me servent vraiment dans mon travail. Je rencontre aujourd'hui des jeunes qui sont diplômés en sociologie, mais qui ne savent pas écrire une lettre professionnelle, qui ne savent pas rédiger des documents de manière professionnelle et tout. Alors que, d'une certaine manière, ils ont raison parce que personne ne leur a montré. Mais en même temps, moi, j'ai appris sur le tas parce que j'ai fait autre chose que la sociologie. Donc oui, je pense que le parcours académique que j'ai eu m'a beaucoup aidé dans mon avancement professionnel. Et même les autres expériences professionnelles que j'ai eues me permettent de développer certaines compétences que d'autres auront mis du temps à développer. Donc, voilà.
D'accord. Voilà. C'est assez intéressant. Je pense que c'est le parcours un peu classique de beaucoup de Togolais ou même beaucoup d'Africains qui ont un diplôme donné, mais qui finalement se retrouvent dans un domaine ou dans un secteur d'activité qui n'est pas forcément lié directement au diplôme qu'ils ont eu, donc du coup, qui s'adaptent très vite, etc. C'est assez intéressant. Et du coup, en fait, ça m'amène à te poser une dernière question, en fait, sur le volet professionnel. Où en es-tu, en fait, dans la réalisation de ton projet professionnel? Est-ce que tu penses que tu es déjà, comme le disent les Ivoiriens, est-ce que tu es déjà arrivé? Ou est-ce que tu penses qu'il reste encore du chemin à parcourir? Je sais pas. Comment est-ce que tu ferais un diagnostic dans ce sens-là?
Alors, est-ce que je suis déjà arrivée? Non. Non, je ne suis pas encore arrivée. Je suis en plein chemin. Je pense qu'il me reste encore des kilomètres à faire. Parce que c'est vraiment, j'ai pas vraiment envie de dire là où je veux en venir dans ma carrière professionnelle. Mais je me vois très loin, en fait. Donc, ce qui fait que actuellement, quand je fais le diagnostic, je ne suis vraiment pas encore arrivée à la moitié de mon chemin, du chemin que je me suis fixé, mais j'y arrive. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde du développement, nous sommes confrontés à des questions de genre. Aujourd'hui, je suis en train de me former en genre pour devenir spécialiste genre. Je suis en train d'améliorer mon style rédactionnel. Je suis en perpétuelle amélioration, ce qui fait que pour moi, chaque étape que je suis en train de franchir actuellement est dans mon parcours professionnel, mais vraiment pour faire le bilan, je ne suis pas encore à la moitié de mon chemin. Voilà.
D'accord, ok. Donc finalement, être spécialiste, genre, ça va rejoindre un peu ton diplôme de sociologie, normalement.
Oui, exactement. C'est des compléments. C'est faire des compléter mon profil professionnel en fait. Parce que oui, tu as la sociologie, oui, tu as tes diplômes, mais si tu ne te spécialises pas dans certains domaines qu'on rencontre très souvent dans le domaine du développement, tu resteras juste une personne un peu comme tout le monde. Tu n'apporteras pas en plus à l'organisation dans laquelle tu vas travailler ou tu ne pourras pas prendre en compte certaines spécificité des projets que tu rencontres. Donc, je pense que pour moi, c'était vraiment un besoin, c'était vraiment important dans mon parcours d'avoir cette connaissance-là Et donc, je suis contente en fait du parcours que je suis en train de mener actuellement. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, 2020 a été une année difficile, a été une année surprise. Mais pour moi, c'est une année de construction, si je peux le dire. Voilà.
D'accord. Ça, c'est intéressant. OK. Je pense que beaucoup de gens qui vont peut-être nous écouter vont dire, au moins, il y en a qui en profitent, en fait, finalement, de l'année 2020. Donc, oui, tant mieux. D'accord. Du coup, Floriane,
oui.
Je vois que tu nous as détaillé un peu ton parcours, tes études, etc.
Oui.
Aussi tes expériences professionnelles, comment est-ce que tu t'es réadapté en fait sur le marché de l'emploi. Et ouais. Ce qui a fait qu'en fait tu as pu développer d'autres compétences qui vont au-delà en fait de ce qu'on apprend en fait sur les bancs universitaires. Et donc, je me demandais si d'aventure il y avait quand même un homme dans ta vie qui t'a épaulé dans tout ce parcours-là, qui t'a secondé ou je ne sais pas trop. Est-ce que en fait, tu as fait ce choix professionnel aussi pour être autonome le plus tôt possible, histoire de pouvoir justement pallier au problème de genre et être face à un homme qui, même s'il est autonome, pourrait te respecter. Est-ce que ton choix de vie professionnelle est lié en fait à ce que tu recherches d'un point de vue sentimental, privé, etc.?
Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas personnellement réfléchi. Mais si je peux dire qu'il y a eu un homme qui m'a épaulé, c'est mon père. Mon père, parce qu'au début, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu une discussion avec lui. Et il me demandait de faire le droit. Alors que moi, je ne me voyais pas faire le droit. Dans ma famille, on a beaucoup de juges, de magistrats, d'avocats, d'huissiers. On a un peu de tout dans le monde du droit. Donc, je pense que c'est pour ça que mon père me poussait vers là. Mais en même temps, quand j'ai pris le temps de lui expliquer ce qui me tenait à cœur, ce qui me faisait vibrer en tant que personne. Et il a compris qu'il ne pouvait pas me pousser vers une voie qui ne me convenait pas. Toutefois, aujourd'hui, je me dis qu'il a peut-être raison parce qu'à l'époque, je pensais que le droit permettait uniquement de devenir avocat, huissier et tout ce que j'avais cité un peu plus tôt. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que dans le monde du développement, nous avons des avocats, nous avons des juristes plutôt, c'est ça le terme. Nous avons des personnes qui ont étudié le droit, mais qui ne sont pas avocats ou huissiers, etc., mais qui connaissent en fait la loi et qui, avec des formations complémentaires, connaissent la gestion de projet, etc. Donc vraiment, l'homme qui m'a épaulé, c'est mon père. J'ai eu à discuter beaucoup avec lui concernant mes études universitaires, ainsi qu'avec ma mère, bien sûr. Mais le choix de vie n'était en rien en rapport avec le choix de vie sentimental. C'était plus par rapport à ma personne. J'aime être indépendante, j'aime pouvoir m'offrir de belles choses, j'aime pouvoir m'offrir du plaisir, de pouvoir me choyer moi-même, de pouvoir prendre soin de moi, sans pour autant être dépendante de quelqu'un. Donc, je pense que vraiment, ma vie professionnelle a été plus guidée par le fait d'être moi, le fait de pouvoir être indépendante, le fait de pouvoir rêver grand, surtout que je rêve d'un poste à l'international. Et donc, vraiment, ça n'a rien à voir avec ma vie sentimentale et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau où je suis, je me vois plus avec une personne qui peut m'apporter vraiment plus. Quand je dis vraiment plus, c'est pouvoir avoir des discussions qui me permettent de voir ma vie professionnelle autrement, qui me permettent de faire des choix qui me vont et tout. Donc, je pense que j'ai vraiment besoin de ce genre de personne. Je ne peux plus me permettre d'être avec, je ne sais pas, ce n'est pas pour descendre certains hommes et tout, non. C'est que chacun a son niveau. Et je pense qu'à mon niveau actuellement, c'est quelqu'un qui peut m'apporter vraiment en plus que je veux. Voilà.
D'accord. Ok. C'est bon à savoir. On peut dire que tu es au niveau du high level, en quelque sorte. Donc, les hommes qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont avertis. voilà, s'ils doivent contacter Florian pour une relation fructueuse, qu'ils prennent cela en compte, bien évidemment, qu'ils prennent les exigences de la demoiselle en compte. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, ça me pousse à aller dans le sens de la question centrale, mais avant tout, j'aimerais quand même aussi revenir sur ce que tu as dit sur ton père, père qui t'a épaulé justement dans ce parcours, dans tes choix. Et je trouve que c'est assez intéressant justement aussi de parler des parents, de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont pu t'accompagner dans ces choix-là, sans forcément te dire pourquoi tu fais ce choix, tu n'aurais pas dû, etc. Mais quelque part, ils t'ont accompagné. Il y a une certaine compréhension entre vos deux mondes, et ça, je trouve ça vraiment bien. Alors, Florian, par rapport à tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode, concrètement, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir et qui auraient peut-être changé des choses dans ta situation actuelle, que ce soit sur le plan professionnel, le plan académique, le plan familial ou encore en fait le plan sentimental? Oui, je reviens là-dessus, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir?
Alors, j'aurais aimé savoir que la vie d'adulte était une arnaque. Une grosse arnaque, je t'assure. Parce que quand on est enfant, on a l'impression que le monde est super grand, super beau, super que du positif, et que c'est parce qu'on est enfant qu'on n'arrive pas à jouir de tout ça, alors que la vie d'adulte, personne ne nous dit que ma soeur, ma fille, quand tu deviens adulte, voilà les responsabilités qui vont avec, voilà ceci, voilà cela. Personne ne nous dit ça, alors que franchement, à aucun moment dans la discussion avec ma mère, à aucun moment dans la discussion avec mon père, l'un d'entre eux m'a dit que, ah ma chérie, si tu fais tel choix, voilà les responsabilités qui s'accompagnent. Ils te diront probablement, si tu fais tel choix, il faut savoir que moi, je ne suis pas derrière toi ou ceci ou cela. Mais jamais on t'explique que, voilà, il y a telle responsabilité que tu vas devoir assumer jusqu'au bout. Que voilà, genre, voilà vraiment quoi. La vie d'adulte est une arnaque pour moi, franchement. Donc, ça, c'est vraiment la chose que j'aurais voulu qu'on me dise. Que de ne pas vouloir vite grandir. Je pense que moi, dès mon bac, vu que j'étais vraiment attachée à l'indépendance, j'ai commencé par boulotter, pas faire de petits boulots. Pas faire de petits boulots comme hôtesse d'accueil. Voilà, la plupart du temps, c'était hôtesse d'accueil. Voilà, j'ai fait du mannequinat pendant un certain moment. Et à un moment donné, j'ai délaissé mes études. C'est la période dont je parle où, en fait, arrivé à un moment donné, je n'arrivais pas à avoir ma licence. J'étais entre beaucoup de choses et je ne me concentrais plus sur mes études. Je crois que je suis tombée dans ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Tu gagnes un peu et tu aimes. Tu aimes ce que tu gagnes parce que ça te permet de te faire plaisir et tout. Et, vraiment. Et il a fallu que je voie une offre d'emploi quelque part et qu'on demande la licence, que je me rappelle que, je suis en train de faire des petits boulots, je suis en train de faire ceci, cela. Ça me rapporte, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas dans la logique ou bien vers où je veux aller. Ce n'est pas dans mon cadre professionnel. Ce n'est pas ce que je veux. Et que je me rappelle qu'il faille que je retourne à l'université, que je termine mes UE que j'ai laissés en l'air et que j'obtienne vraiment ce diplôme, la licence-là. Parce que même après avoir validé mes UE, toutes mes UE, j'ai dû prendre un an pour avoir ma licence, genre le papier qui certifie que j'ai la licence en sociologie. Donc vraiment, c'est un truc que j'aurais aimé savoir dès le au plus tôt.
D'accord. Ok, donc ce que tu aurais aimé savoir touche tes études en fait à la fac, l'argent, le travail, et peut-être aussi, si je comprends bien, d'autres aspects assez intéressants que tu viens d'évoquer. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peut-être te chiffonnaient ou te chiffonnent et qui peut-être te bloquent un peu dans ton développement personnel à toi? Je sais pas.
Non, mais franchement, je pense que j'ai mon vrai souci, c'est que j'aurais vraiment voulu savoir que la vie d'adulte, c'est pas facile, parce que ça résume vraiment tout ce que j'ai pu traverser, que ce soit les déboires en amitié, parce que j'ai vraiment eu un gros boumé amical. Hé, Seigneur, ceux qui n'ont jamais eu boumé amical là, il faut dire merci à Dieu.
Ça fait plus mal.
Non, un boumé amical fait plus mal qu'un boumé amoureux. Ah ben oui, parce qu'avec les amis, tu ne t'y attends pas, tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait un problème dont vous ne puissiez pas parler et du jour au lendemain, vous vous éloignez. J'ai appris sur le tas ou bien j'ai appris comme ça que les amitiés, ce n'est pas forcément pour toute la vie. Et c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises de la vie et qui m'a vraiment mise à terre. Parce qu'à l'époque, j'avais ma meilleure amie. J'avais une amie que j'appelais ma meilleure amie. On s'est connus depuis le lycée. Et arrivé, je ne sais pas, 6 ans après, la vie a fait qu'on a dû se séparer parce que voilà, nous n'avions plus les mêmes valeurs à partager. Et ça m'a beaucoup forgé ou blessé. Mais ça n'a pas changé ma personne du fait que j'aime vraiment les gens, j'aime les personnes, je suis sociale. Et donc, ça ne m'empêche pas d'avoir de nouveau des amis, de faire de nouveau confiance. Mais maintenant, je garde à l'esprit que une amitié peut commencer aujourd'hui et peut se terminer demain. Au niveau sentimental, ah, mais vraiment, les hommes sont... C'est comment on dit encore sur Twitter? Men are trash, ou bien... Vraiment, ça c'est vraiment, il faut le prendre avec des pincettes. Je ne dirais pas que je suis une personne parfaite, mais je pense que un couple est un tandem, un couple est une équipe et que malheureusement c'est au fil des années qu'on apprend à vraiment communiquer en couple. Au début, avec les amourettes de lycée, les amourettes au campus et tout, on n'est pas assez mature, en tout cas pas tous assez mature pour savoir quand lâcher prise, savoir quand partager des difficultés, savoir quand parler, quel comportement avoir. Moi, par exemple, en couple, j'étais possessive. Mais maintenant, je m'en fiche carrément parce que je me dis que chaque personne sait exactement ce qu'elle vient faire dans la relation et qu'il suffit de se mettre d'accord sur un certain nombre de comportements, sur un certain nombre de choses, de valeurs qu'on partage, d'où on va, de ce qu'on veut obtenir et qu'on y aille. Et comme dit une amie, la vie c'est un tour, on vit une fois. Donc vivre chaque relation comme si c'était la première et la dernière relation qu'on vivra, que ce soit dans le sentimental, que ce soit en relation ou en amitié. Pour moi, c'est maintenant ça. Et côté professionnel, c'est vraiment se donner à fond. Lorsque, actuellement, par exemple, je rencontre beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » Et je me demande « Mais comment est-ce que tu ne sais pas faire ci? Comment est-ce que tu ne sais pas faire ça ?» Mais cherche et forcément, tu trouveras quelqu'un qui sait faire ceci, qui sait faire cela, tu lui demandes, tu t'appliques, tu fais des recherches pour savoir exactement ce que tu ne sais pas faire, apprendre à le faire. Moi, il y a vraiment beaucoup de choses que je sais faire aujourd'hui. C'est parce que j'ai dû approcher une grande sœur, un grand frère, quelqu'un qui est dans le domaine, où j'ai dû chercher sur Internet pour avoir ces informations, pour savoir comment faire, débuter d'une certaine manière. mais j'y suis arrivée. Même si au début, le résultat n'est pas wow, à force de s'impliquer, de s'appliquer plutôt, on finit par obtenir le résultat qu'on décide et même par s'améliorer. Et donc, je pense que c'est vraiment nécessaire sur tous les plans, toujours chercher à s'améliorer, toujours chercher à donner le meilleur de soi, que ce soit côté professionnel, comme je l'ai dit, que ce soit en amitié ou en amour, et même dans les relations familiales. Voilà.
D'accord. Ok. Bah, en fait, finalement, je vois qu'en fait, tu reviens sur les relations humaines en général. En fait, tu aurais voulu savoir un certain nombre de choses sur les relations humaines, en fait, en gros, si je comprends bien.
Oui, exactement. Parce que c'est vrai que je suis sociale, mais je pense que c'est mon plus gros problème. Je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un de qui se laisse affecter ou bien qui est affecté par son environnement immédiat. Si quelqu'un à côté de moi est triste, forcément, je vais le sentir, je vais le prendre sur moi. Et si la personne ne reconnaît pas qu'elle est triste, je deviendrai triste à côté d'elle. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris avec le temps et que j'ai dû travailler pour ne pas me laisser affecter également par les émotions d'autrui. J'ai dû apprendre à dire non, comme beaucoup de monde, je pense, parce que enfin, on nous apprend à dire tout le temps oui, mais aujourd'hui, je dis beaucoup non. Je dis beaucoup non, sans que ça ne me mette mal à l'aise face à la personne qui reçoit mon nom. J'accepte également les noms des autres. Vraiment, moi, la plus grande chose que j'aurais vraiment voulu savoir, c'est comment gérer toutes les relations humaines. Vraiment. Ça.
D'accord. Comment gérer toutes les relations humaines? D'accord. Bah, j'ai comme l'impression que le boomer amical est peut-être le boomer amoureux dont tu as parlé tantôt, si j'ai bien suivi. Ton assez affecté. Et donc, je suppose que maintenant tu es assez droite dans tes bottes, donc tu fais attention en fait aux relations humaines que tu entretiens avec les autres, etc.
Oui, également. Oui, je dirais que l'amitié c'est pas forcé, l'amour c'est pas forcé. Si tu te retrouves pas dans une relation, la meilleure manière c'est de dire au revoir et de prendre ses clics et ses claques et partir.
Tout simplement. D'accord. Mais après, je suppose que tu le sais déjà que en termes de relations humaines, que ce soit les relations amicales, amoureuse ou encore les relations avec nos propres enfants qu'on aura dans les années à venir, il y a toujours ce qu'on appelle en fait les langages de l'amour. En fait.
Oui, le Gary Chapman.
Exactement. Parce que c'est vrai que c'est très facile de laisser tomber une relation, de partir du jour au lendemain, comme tu le dis, dès qu'on ne se retrouve pas. Mais parfois, c'est juste parce qu'on n'a pas identifié ou on n'a pas identifié l'un et l'autre. Les langages
d'amour que l'autre comprend.
Exactement. Donc, quelque part, peut-être que ça pourrait marcher si on prend le temps de connaître le langage de l'autre, tout simplement. Si l'autre a peut-être, ça peut être un ami ou une amie, a comme langage, je ne sais pas trop, la parole valorisante, et que toi, tu ne lui fais que des cadeaux.
Oui, c'est normal que ça dégame entre vous. Je suis parfaitement d'accord. Moi, j'ai compris le langage de l'amour il y a quoi, 3 ou 4 ans. Je suis tombée sur le livre de Gary Chapman. À cette époque, je ne savais plus ce que je vivais. Je ne sais plus ce que je vivais. Et j'ai décidé de lire ce livre-là. Et moi-même, je me suis découverte. Oh, la surprise! Je savais que j'étais intéressée par... c'est quoi déjà mon langage d'amour le plus parlant? C'est voilà, les moments de qualité. Pour moi, c'est vraiment les moments de qualité. On peut être là des heures durant. Ne pas forcément se parler, mais passer un bon moment ensemble. Ne pas avoir une discussion à bâton rompu, mais passer de bons moments ensemble. Et que ça soit en amoureux ou en amitié, pour moi, le langage le plus top, c'est les moments de qualité. Et vraiment, j'ai été pas vraiment surprise, mais j'ai été agréablement surprise de savoir que c'est le langage qui me parle le plus. Et quand je revois ma vie, en fait, c'est vraiment cela. Je peux passer des heures à juste m'asseoir, regarder mon amoureux, à ne rien faire. Ou qu'il soit couché quelque part, assis quelque part. Moi, je suis en train de travailler. Mais l'important, en fait, c'est d'être ensemble, de partager ce moment ensemble, de pouvoir avoir des blagues personnelles à nous. Et même en amitié, je suis comme ça. En amitié, les gens ne le savent peut-être pas, mais moi, j'ai beaucoup de clans. J'ai un clan d'amis avec lequel je suis... Floriane la Fofolle. J'ai un clan d'amis avec lequel je suis Floriane la Douce. J'ai un club d'amis avec lequel je suis Floriane la Sensée. Et je ne mélange pas ces amis-là. Parce que pour moi, chacun d'entre eux a une spécificité. Chacun d'entre eux m'apporte un certain nombre de choses. Et vraiment, moi, j'aime bien avoir toutes ces cases-là dans lesquelles je range et je me range. Et c'est également comme ça pour ma vie sentimentale. J'aimerais pouvoir connaître mon homme, savoir exactement ce qui lui parle, si c'est vraiment des cadeaux qui sont pour lui importants, que je le sache. Et pour que toute relation aille de l'avant, vraiment, c'est connaître le langage d'amour de son prochain. Même dans le milieu professionnel, pour un collègue avec lequel tu veux, ou bien un supérieur hiérarchique avec lequel tu veux créer un lien pour qu'il soit ton mentor ou pour qu'il puisse te donner des conseils dans l'entreprise, c'est connaître également son langage d'amour. Savoir exactement ce qui lui parle, lui dire de temps en temps, « Ah, monsieur, ah, madame, votre robe, elle est très jolie. Ah, monsieur, votre costume aujourd'hui, il est super, je l'adore. » Et si c'est ça qui lui parle, vous allez voir qu'à un moment donné, il vous fera plus appel, il vous demandera vos avis, si par exemple, il y a un boulot à faire, il y a une tâche à faire et tout. Et si vous avez de bons avis également, bah, il vous fera encore plus appel. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un truc, connaître le langage d'amour de son prochain, c'est vraiment un truc qui aide à tous les niveaux, vraiment, vraiment à tous les niveaux. C'est un livre que je recommande à tort et à travers. Genre, on peut le relire plusieurs, mille et une fois, plusieurs fois, autant de fois. Avec overdose même.
D'accord. En tout cas, oui, je pense que c'est un excellent livre, de toute façon. Et tu viens de dire des choses assez intéressantes aussi. Et je pense que ça demande de la patience, tout simplement. Et je me demandais,
oui,
si finalement, est-ce que ce que tu aurais aimé savoir, c'est pas aussi ce langage de l'amour, en fait? Parce que tu te dis, en fait, qu'il y a 4 ans seulement que tu as pu découvrir ce langage-là. Est-ce que, vu que tu ne la connaissais pas peut-être avant, peut-être que tu n'as pas pris le temps d'explorer tes relations amicales, amoureuses, etc. Et peut-être que ça aurait pu marcher si tu connaissais justement ces aspects de langage de l'amour.
Ah, question à 1000 $. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que, d'une certaine manière, je pense que ma vie suit le cours qu'il doit suivre. Donc, je me dis que c'est il y a 4 ans que j'aurais dû découvrir ce livre-là et que je l'ai découvert. Pas plus tôt, pas plus tard. Et donc, si je l'avais connu un peu plus tôt, est-ce que ça aurait changé certaines choses? Non. Non. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Surtout quand je prends mes plus gros gourmets. Non, je ne pense pas.
Ok, d'accord. Là, tu as parlé tantôt, on va aller sur peut-être un aspect un peu différent, mais toujours justement sur ce que tu as abordé. Oui. Tu as parlé tantôt de l'important d'avoir aussi, de cultiver ce langage dans le milieu professionnel. Oui. En revanche, est-ce qu'il ne faut pas le faire avec tact? Je le dis parce que, supposons que tu es une femme, justement, voilà, t'es dans le milieu professionnel, d'accord, et que tu as identifié qu'il y a peut-être un collègue direct qui travaille aussi dans la gestion de projet, donc qui a son bureau pas très loin du tien, et dont le langage et les paroles valorisantes, ou peut-être les cadeaux, je dis n'importe quoi.
Oui.
En tant que femme, c'est clair que si tu dois lui faire des compliments sur son habillement ou lui faire des cadeaux de temps en temps, etc., il faudrait que ça soit fait avec tact parce que il pourrait croire en fait que tu voudrais justement une relation amoureuse, par exemple. D'accord?
Exactement.
Et vice-versa. Pour nous, les hommes, c'est encore pire, en fait, de toute façon, dans le milieu professionnel. Tout d'un coup, on te parle d'harcèlement alors qu'en fait, tu ne... Peut-être que tu as identifié que ta collègue aime les compliments, ou peut-être que ta collègue aime les cadeaux, ou j'en sais rien. Et que de temps en temps, tu fais des gestes parce que tu as remarqué peut-être qu'au début de votre relation professionnelle, ce n'était pas très rose, et que tu voulais en fait arranger les choses. Et du jour au lendemain, en fait, ça pourrait devenir un autre problème hors du milieu professionnel finalement. Est-ce que tu penses que est-ce que c'est le genre de choses qui t'est déjà arrivé, par exemple?
Alors, est-ce que je me suis retrouvée dans une situation bizarre en milieu professionnel? Non, du tout. Non, je ne me rappelle d'aucune situation bizarre, que ce soit venant de moi ou venant d'un collègue. Si. Elle se venir. Je me rappelle, j'ai travaillé pendant un certain moment dans un cabinet, un centre d'appel. En fait, c'était un monsieur qui montait son entreprise et qui m'avait donné pour mission en ce moment-là de passer des appels pour retenir des rendez-vous qui lui permettront d'aller voir, de prospecter les potentiels clients. Et alors, ce monsieur est un, disons, je le considérais comme un gentil monsieur. De temps en temps à midi, je ne suis pas la seule au bureau, je suis avec deux autres collègues, deux autres femmes également, c'est lui le seul monsieur de l'entreprise. Et je pense parfois il nous invitait à déjeuner, il nous rapportait à manger. Et comme j'étais celle, à part l'assistante de direction, j'étais celle qui était son second. Et donc, parfois, je sortais également avec lui pour aller déjeuner, pour aller à des rendez-vous professionnels et tout. Et je me rappelle qu'à un moment donné, une de nos discussions avait été assez bizarre, je crois. Oui, je pourrais dire bizarre, ou qui était tendancieuse pour moi. Genre, dans ma tête, je me disais, mais ouais, j'ai envie. Pourquoi il me pose ces questions-là? Il a commencé en fait par me poser des questions sur ma vie personnelle et tout. Et pour moi, c'était dérangeant. Je lui répondais à demi-mot. Et après cet épisode-là, ce n'est que quelques temps après, il a commencé par m'appeler assez tardivement. Même quand on quittait le bureau, et parfois tu as son appel à 21h, 22h, tu te dis c'est ton boss, tu vas décrocher, tu discutes et là il te dit non, qu'il y a un rendez-vous, est-ce que tu peux te libérer à 21h, 22h, il passe te prendre et tout. Et moi vraiment à cette époque-là, je n'étais pas consciente des dangers, des agressions qu'une femme pouvait subir. Franchement, je n'étais pas consciente de ça. Mais bizarrement, je ne me sentais pas à l'aise avec lui. Surtout à partir du moment où il a voulu s'intéresser un peu trop près de ma vie privée. Et j'ai dit non. À chaque fois qu'il m'appelait pour un rendez-vous tardif, je disais non. Ma mère me disait, ok, c'est toi qui décides, mais c'est ton boulot. Tu devrais faire des sacrifices et tout. Mais j'ai dit non. Et quelques jours après, en fait, j'ai rencontré une fille qui était venue demander dans le lieu où il avait constitué comme étant son entreprise. Une fille était venue demander d'après lui pour réclamer son argent ou un truc dans le genre, pour réclamer son argent. Et je me suis mise à discuter avec elle, à lui dire que bon, le boss n'est pas là, mais vous pouvez laisser votre numéro, votre nom et tout. On vous recontactera après ce qu'il vous dira et tout. Et donc, moi, j'ai pris le numéro, je l'ai enregistré dans mon téléphone et je lui ai donné le mien. Quelques temps après, la go m'appelle et on discute, on devient un peu proche. On discute et du fil en aiguille, je commence par comprendre en fait que elle a quitté le boulot parce que le monsieur devenait un peu insistant envers elle. C'est-à-dire qu'il attendait des faveurs physiques ou sexuelles. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le terme proprement dit dans le ministère. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, ce n'était pas un environnement de travail dans lequel je voulais évoluer. Et j'ai commencé à vraiment être distante de mon boss jusque par décider de quitter le boulot. Alors, c'est un épisode qui m'a marqué parce que en y pensant, je me demandais si c'était pas ma faute, si c'était pas mon habillement ou mon comportement qui lui a laissé croire la chose, mais en fait non. C'est juste que voilà, c'est le type de personne qu'il est. Lorsqu'il y a une relation de pouvoir, quand quelqu'un a de la supériorité sur vous, il a tendance à vouloir en abuser, surtout s'il pense qu'il en a le droit. Donc, c'est vrai que c'est des situations qui arrivent. Maintenant, pour revenir à comment utiliser le langage de l'amour en milieu professionnel, c'est vraiment de rester professionnel. Lorsque je donnais par exemple, je donnais pour exemple un peu plus tôt à madame, j'aime bien votre robe, à monsieur, j'aime bien votre costume. C'est des appréciations à ne faire qu'une fois ou deux fois en passant. Il est préférable de dire à monsieur, j'adore vraiment votre travail, j'adore vraiment la façon dont vous arrivez à expliquer ce que vous dites, à faire ressortir des points que je ne vois pas. À madame, j'aime bien votre manière de penser, j'aime bien votre style de fonctionner. C'est de rester franchement sur que des qualificatifs professionnels. C'est également en termes de cadeaux, si c'est les cadeaux qui sont le langage d'amour de votre collègue, de ne faire que des cadeaux professionnels ou d'attendre des moments vraiment par exemple le 1er mai, on peut se faire le cadeau. Je ne sais pas. Mais vraiment rester, évaluer l'environnement dans lequel on évolue, évaluer les personnes qu'on côtoie avant de poser certains actes ou de décider de faire, de dire telle chose ou de faire telle autre chose. En fait. C'est vraiment d'évaluer son environnement.
D'accord. Ok, oui, je pense que c'est assez clair pour ceux qui nous écoutent, qui ont compris qu'il faut faire attention aussi oui. Sur le plan professionnel, même s'il faut être gentil, courtois et tout. Faut quand même mettre des limites assez tôt lorsqu'on remarque que ça va dans tous les sens. C'est aussi valable pour les hommes, bien évidemment, parce que parfois un homme peut être très gentil et justement la collègue peut penser qu'en fait que l'homme est en train de faire des avances alors que ça ne va pas du tout le cas. Ouais. Je pense que c'est assez utile. Oui, vas-y.
Et lorsqu'on a la possibilité de mettre les choses au clair, de dire carrément à son collègue ou à sa collègue que non. Je n'attends rien de toi, je le fais juste parce que je te considère ou bien je considère ton travail. D'être clair, d'être franc et de faire table sur table avec son collègue ou sa collègue pour dire que non, il n'y a pas d'intention cachée derrière. Et que si vraiment ça dérange, que tu arrêtes, ainsi de suite. Je pense que c'est aussi ça. Est-ce que le monde professionnel, c'est quand même une jungle? Quelqu'un peut vite raconter des faussetés sur toi juste pour pouvoir profiter d'un avancement ou bien pour se faire remarquer dans le boulot. On connaît tous son collègue ou une collègue qui en fait du trop ou qui n'hésite pas à jeter les deux en pâture. Donc, c'est juste vraiment de connaître vraiment ses collègues avant de s'avancer vers eux Et quand il y a des doutes, de mettre vraiment les choses au clair, de bien faire les cases en fait, quoi. Que chacun reste dans son domaine.
D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, pour cette anecdote que tu as partagée avec nous, justement, sur tes expériences. Et donc, je reviens rapidement, en fait, sur le fait que tu veux te spécialiser, en fait, en question de genre. Et je pense que ça m'amène, en fait, à te poser une question, en fait, parce que nous tendons vers la fin de l'épisode. Et en fait, je voulais savoir concrètement comment toi tu définirais le féminisme, comment tu te positionnes par rapport à ce combat, par exemple, vu justement que tu vas peut-être travailler dans ce type de domaine spécifiquement. Je suppose que tu y travailles déjà, puisque les projets de développement touchent justement parfois aussi les gens. Donc, j'aimerais savoir en fait si tu as 2-3 minutes à nous consacrer par rapport à ça concrètement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au féminisme?
Ah, bien sûr, je suis féministe. Pour commencer, je suis féministe. Parce que pour moi, le féminisme aujourd'hui est une nécessité. Et beaucoup de personnes, ramifient le féminisme au féminin. C'est des féministes qui sont vraiment, entre guillemets, agressive, que beaucoup de gens qualifient d'agressive parce qu'elle n'hésite pas à crier, à se mettre dure au nom de l'égalité homme-femme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le féminisme est un mouvement social. Quand on dit un mouvement social, c'est un mouvement qui ne résume pas à un groupe de personnes, à un groupe d'indépendantistes ou à un certain groupe de personnes de pays. C'est un mouvement social, c'est un mouvement qui s'étend dans la société. Et quand on parle de société, en fait, c'est vraiment toutes les couches sociales et tous les types, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. C'est un mouvement qui est vraiment... Et c'est quoi le féminisme? Il suffit de dire que c'est ce mouvement social qui lutte pour l'égalité en droit. L'égalité en droit, c'est vraiment important de retenir ça, l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Parce que certains diront que oui, l'égalité est atteinte, mais je considère que non. Surtout que nous vivons encore dans une société que nous appelons patriarcale. Une société patriarcale, c'est une société dans laquelle les hommes sont les dominants et les femmes sont les dominées. C'est-à-dire que les valeurs, les rôles qu'on attribue aux hommes sont plus valorisés, sont plus puissants que celui qui est accordé aux femmes. Comment on y est arrivé, je ne sais pas trop. C'est les sociétés qui se sont configurées ainsi. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à l'égalité, parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui encore dans nos pays, des femmes sont tuées juste parce que les femmes sont agressées sexuellement chaque fois, tout le temps, chaque fois que tu sais. Il y a des heures, quand tu regardes sur ta montre, tu as peur de rentrer. À certains endroits, avant de te rendre là-bas, tu vas te regarder mille et une fois dans le miroir pour te demander si la façon dont tu es habillée ne te met pas en danger. Alors que dans un monde égalitaire, dans un monde où tout le monde a les mêmes droits, peu importe ton sexe, la manière dont tu seras habillée, la manière dont, je sais pas, peu importe les heures à laquelle tu sors, tu n'auras aucun risque. Pas, en tout cas, pas en tant que femme, pas en tant qu'homme. Parce que oui, beaucoup de me diront que oui, les hommes aussi sont agressés. Oui, les hommes aussi sont victimes de violences sexuelles. Oui, mais il faut comparer les nombres. Combien d'hommes sont victimes de violences sexuelles? Combien de femmes sont victimes de violences sexuelles? Combien d'hommes sont tués parce qu'ils sont hommes? Combien de femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est pas qu'on nie comment on dit, les violences envers les hommes, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Seulement que la violence envers les femmes est plus systémique, est plus un peu intégrée au système que les autres types de violences. Je ne sais pas si ce que j'ai dit apportera de la lumière à certaines personnes qui m'écoutent et qui ont entre guillemets en horreur le féminisme. Mais ce que je peux y ajouter, c'est que, en tout cas, les féministes sont des êtres humains. Nous pouvons faire des erreurs par rapport à notre manière d'interagir, à nos propos, soit que nous avons la science infuse ou comment le monde devrait devenir. Mais tout ce que nous voulons, c'est que plus aucune femme ne soit tuée parce qu'elle est femme, plus aucune femme ne soit victime d'agression sexuelle, plus aucune femme, je ne sais pas, tout ce que les femmes rencontrent à cause de leur condition de femme ne soit plus qu'un mauvais rêve pour les générations futures. Voilà.
D'accord, ok. Je pense que c'est assez normal de lutter pour les droits plutôt des femmes. Et je pense que c'est plutôt dans pratiquement toute la société qu'on retrouve maintenant ce mouvement-là. Et je trouve ça intéressant justement de te plonger là-dedans et de voir concrètement ce qu'il en est. Et je vois aussi que tu parles du fait que voilà, c'est peut-être mal compris, c'est peut-être la démarche qu'il faut revoir, hein, ou bien la méthodologie, j'en sais rien, pour mieux expliquer cela en fait à qui de droit. C'est tout à fait normal aussi qu'on soit dans une société où, avec les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup d'interprétations, tout simplement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien choisir ces mots. Malheureusement, on est dans une société comme ça actuellement. Oui. où il y a beaucoup de jugements également. Et donc, je pense que je ne suis pas, en tout cas, de mon point de vue, bien évidemment, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens sont voilà. Il y en a quand même qui sont contre, malheureusement. Mais je pense que beaucoup de gens sont en train de comprendre que c'est important qu'on puisse respecter les droits des femmes. Après, lorsque tu parles de violence physique, etc., je pense que le débat, il est vaste à ce niveau. C'est-à-dire que le débat, il est très, très vaste parce qu'on pourra aussi parler du fait qu'il faille former les agents, les policiers, etc., qui reçoivent les plaintes.
Oui, les forces de l'ordre.
Les forces de l'ordre, voilà un peu
Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai vécu et je pense que je l'ai publié sur Twitter aussi, où je suis arrivée dans un commissariat avec une amie dans le cadre des accompagnements des victimes de violences sexuelles. Une mère qui voulait dénoncer le viol de sa fille, qui, oui, ça remonte à 12, 3 ans, sans sachant que la fille est une handicapée mentale. Et donc, c'est sa mère qui a entrepris réclamer justice pour sa fille. Et nous sommes arrivés dans un commissariat où on nous reçoit en plein hall, où on demande à la dame de raconter le parcours de sa fille, plein hall, devant des agents qui ne sont pas habilités à recevoir ces informations, devant des citoyens qui sont venus faire autre chose dans un commissariat de police. Et une histoire qui a dégénéré parce que ma collègue utilisait son téléphone et qui est vraiment, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Où il faut vraiment former les forces de l'ordre, non seulement dans l'accueil, mais dans la prise en charge et même les services de santé. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, on n'a pas encore un système bien en place pour recevoir les victimes de violences sexuelles. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais je pense que c'est dans les projets du gouvernement. Mais je pense qu'il faut juste aller un peu plus vite parce que c'est quand même des réalités assez urgentes. Et qui font mal quand on retrouve des mamans qui veulent justice pour leur famille, pour leurs filles ou que des personnes elles-mêmes veulent justice pour elles-mêmes. Donc, vraiment, au niveau des forces de l'ordre, au niveau des centres de santé, c'est vraiment important de respecter pour au moins accompagner. Et d'une autre manière aussi, mettre tout ce qu'il faut mettre en place pour réduire ou éliminer ce type de jeunes.
D'accord, ok. Bon, de toute façon, je pense que oui, c'est assez vaste, hein. C'est-à-dire que il y a un gros travail à faire en fait auprès de forces de l'ordre, de pouvoirs politiques, etc. Et il y a un autre travail aussi à faire sur les mentalités, etc. Parce que c'est deux univers qui se recoupent un peu dans le féminisme finalement. Et je pense que justement, c'est peut-être un combat qui est parfois un peu mal perçu. Lorsqu'on voit peut-être des féministes qui donnent des ordres, par exemple, à d'autres femmes en disant tu dois te comporter de telle façon dans ton couple, etc. Alors qu'en fait, il y a des personnes qui sont féministes professionnellement, etc. Et ça n'a aucun impact en fait, sur leur vie de couple. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que parce qu'on est féministe, on ne peut pas avoir une vie de couple épanouie avec un homme. En fait. Et je pense que c'est surtout à ce niveau qu'on a comme l'impression qu'il y a un gros débat qui se pose, en tout cas sur les réseaux sociaux, pas seulement sur Twitter d'ailleurs, même lorsque tu lis certains articles, et pas seulement en Afrique, même en Occident, c'est parfois le débat qui revient, parce qu'il y a certaines femmes qui disent clairement les féministes n'ont aucun ordre à me donner en fait dans ma vie de couple, parce que je travaille déjà dans le secteur... Je suis déjà dans un secteur d'activité où je lutte aussi pour le droit des femmes. Et ça ne m'empêche pas du tout d'être une femme extraordinaire aux côtés de mon mari. D'autant plus qu'il y a des hommes aussi qui sont féministes. Donc voilà, c'est-à-dire que je pense que le gros débat aussi va dans ce sens-là, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions.
Oui, je pense également. Mais en même temps, je pense que normalement, le féminisme doit être compris comme... donner la liberté à la femme d'être qui elle veut être. Si c'est une dame qui a fait quoi, qui a obtenu un haut diplôme, un doctorat à l'université, et qui du jour au lendemain rencontre l'homme de sa vie et veut être une femme au foyer, qu'elle a ce droit-là. Et que si c'est une fille qui a juste obtenu son bac, mais qui ne veut pas être femme au foyer, qui veut pouvoir travailler, avoir son propre argent, qu'elle a également ce droit-là, sans que pour autant quelqu'un vienne lui dire que non, parce que tu es femme, bien une femme doit. Non, c'est pas ça le débat. Mais en même temps, l'autre chose, c'est que pour moi, le féminisme est quand même un mode de vie. On ne peut pas vouloir dire également qu'on défend le droit des femmes tout en brimant d'autres femmes à la maison. Et ça, je vais prendre juste l'exemple de ces femmes-là qui par exemple sont de grands défenseurs des droits de la femme au dehors, qui se battent pour que les hommes ne violentent pas les femmes, mais qui à la maison avec leur aide ménagère sont violentes. Non. Par exemple, ça, moi je ne le conçois pas. Il y en a peut-être qui le conçoivent, mais moi je ne le conçois pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des sous-battements du féminisme, c'est de faire en sorte qu'on reconnaisse la femme comme être humain en part entière, qu'on lui redonne sa dignité d'être humain. Et donc, on ne peut pas se dire féministe et que dans notre vie personnelle, nous soyons des oppresseurs. Moi, pour moi, ça ne marche pas. Donc, au niveau du couple également, je pense que chaque personne, en tenant compte de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, fera de son couple ce qu'elle voudra. Par exemple, moi j'ai une amie, elle par exemple, elle n'aime pas faire la lessive, elle n'aime pas faire la vaisselle, mais au niveau de la cuisine, elle adore faire la cuisine. Donc elle est en couple aujourd'hui, c'est son homme qui fait la lessive, c'est son homme qui fait la vaisselle. Elle s'occupe par exemple du ménage et de la cuisine, de faire les emplettes et tout. Ils ont adopté leur style de vie à eux dans leur couple. Et ça leur convient. Et donc, je ne peux pas m'autoriser en tant que femme ou en tant que féministe d'aller dans le couple et de dire « Mais pourquoi toi, tu continues pas à faire la cuisine? Laisse ton homme faire la cuisine. » Non, je ne peux pas faire ça. C'est impossible pour moi. Parce que les deux se sont mis d'accord sur un système dans le couple. Tant que ça leur convient à tous les deux, tant que ça n'oppresse pas l'un ou l'autre,
moi, je me dis c'est bon. Donc, franchement, c'est donner la liberté d'être qui on veut être en couple et même dans la vie professionnelle, mais tout en restant en accord avec tout ce principe-là de dignité humaine et du respect de l'opinion de tous.
D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour terminer justement ce petit débat sur le féminisme, qui est un livre, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, justement de Gary Chapman, qui parle justement du partage des tâches dans le couple.
Oui.
Donc, ça n'a rien à voir avec, comme tu l'as dit, avec, c'est pas forcément lié au féminisme, c'est juste qu'il faut se comprendre en couple. Et justement, partager les tâches conformément à comment vous fonctionnez. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que l'homme ne respecte pas la femme ou que la femme ne respecte pas l'homme, etc. D'accord.
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup pour ton avis là-dessus.
On va aller vers la question du podcast que j'ai initié justement dans l'émission depuis un moment, Floriane. Et moi, je voulais savoir ce que tu penses du fait d'avoir... deux capitaines dans un bateau. Lorsqu'on parle de la vie de couple, lorsqu'on parle d'un homme et d'une femme, justement, lorsqu'on parle du féminisme également. Donc, tu vois, lorsqu'on mélange tout cela et qu'on parle du fait d'avoir deux capitaines dans un bateau, pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent que le chef de famille ne devrait plus être traditionnellement l'homme et qu'il faut juste un partage, etc. Mais est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quelle est ton opinion sur le fait d'avoir deux capitaines dans un bateau? Est-ce que c'est possible d'ailleurs d'avoir deux capitaines dans un bateau lorsqu'on parle d'une vie de couple, même s'il y a le féminisme, bien évidemment? Qu'est-ce que tu en penses?
Par rapport à la question de podcast, je pense que dans un couple où l'on ne devrait pas considérer le mariage comme un bateau, c'est vrai que la phrase de laquelle c'est tiré, c'est-à-dire « il ne peut y avoir deux capitaines dans un bateau », est une insertion qu'on utilise très souvent pour parler du couple, pour expliquer en fait qu'il ne peut pas avoir... de chefs de famille dans les couples. Et ce à quoi je ne suis pas pour. Parce que pour moi, un chef de famille, c'est d'abord un chef. C'est celui qui commande, c'est celui qui prend les décisions de manière unilatérale. Où la relation est une relation verticale. Où il donne des ordres et les autres exécutent. Alors que la famille, c'est plus... déjà, même le couple, c'est plus une alliance, une équipe. Et dans une équipe ou dans une alliance, les deux personnes qui prennent l'alliance, il n'y a pas de supérieur, inférieur. Chacun apporte ce qu'il a apporté. Chacun joue un rôle bien particulier. Tous les deux ne jouent pas le même rôle, mais chacun a son rôle bien particulier et personne n'a de l'ascendance sur l'autre. Et je considère que dans un couple, c'est comme ça que ça doit marcher. Ça doit fonctionner comme un duo, comme un tandem, où les deux personnes, face à un problème, face à une situation, s'asseyent, parlent, discutent, s'écoutent, pour prendre une décision conjointe, une décision qui leur convient à tous les deux, que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur la relation avec les deux familles, que ce soit sur l'éducation des enfants ou sur les positions, je ne sais pas, à prendre devant certaines situations. Il doit avoir une discussion en amont et une décision qui convient à tous les deux. Alors que lorsqu'on me parle de chef, moi je vois plus cette personne qui donne des ordres, qui dirige, qui ne discute pas forcément ou écoute la position de l'autre, mais c'est sa décision qui est la finale. C'est-à-dire que En tant que chef de famille, je peux très bien écouter mon conjoint ou ma conjointe, mais de toute façon, ma position ou ce que je veux faire prime par rapport à la position de l'autre. Et je ne considère pas que ce soit comme ça. De plus, je pense que laisser le rôle de chef de famille qu'on attribue très souvent à l'homme est un plus pour l'homme dans le sens où ça lui permet en fait de se départir d'un fardeau. Parce que donner la chefferie à quelqu'un dans un couple, c'est à lui qu'incombe la survie de ce couple, c'est à lui qu'incombe la survie de cette famille, du mariage. C'est lui qui a des charges mentales dont on ne peut pas parler, dont il ne peut pas qui ne peut pas exprimer, parce que très souvent c'est l'homme. Et la femme qui est entre guillemets sa seconde, parce que dans les couples traditionnels, que je dirais patriarcales, l'homme est le chef de la famille et la femme c'est la seconde. On peut très bien dire que c'est la mère, c'est celle qui prend soin et tout, mais au final c'est toujours la seconde. C'est-à-dire c'est pas à elle de prendre les décisions finales pour la famille. Et c'est vraiment ce qui est problématique, parce que lorsqu'on voit des couples un peu plus évolués, quand je dis évoluer, je pense que c'est pas forcément le bon terme. Je dirais un peu plus récent, genre un peu la génération de ma mère à moi ou la génération de nos parents. Je ne sais pas si on a la même génération, mais je dirais que c'est ça. On rencontre des femmes qui s'impliquent beaucoup plus que des hommes et qui en réalité sont les chefs de leur famille, parce que c'est elles qui ramènent l'argent, c'est elles qui prennent les décisions, c'est elles qui se mettent au devant des problèmes, etc., etc. Et l'homme est derrière. Mais on dira que c'est l'homme le chef de la famille tout simplement parce qu'il est homme. Mais lorsqu'on rentre dans la réalité du couple, c'est en réalité la femme la chef de famille. Mais on ne lui attribuera jamais ce rôle. Et je trouve ça injuste de tout le temps ramener la chefferie de la famille à l'homme. Parce qu'il y a des hommes également qui ne veulent pas avoir ce fardeau sur le dos, qui n'ont pas envie d'être chef de famille. Ils ont juste envie d'être en couple. Tandis qu'il y a des femmes qui ont envie de revertir ce rôle-là. Et il y a des personnes comme moi qui aiment partager les rôles, qui ne veulent pas avoir à porter la charge à elles toutes seules ou qui ne veulent pas faire porter la charge à l'homme tout seul. Parce que oui, être chef de famille, ça incombe des charges, ça incombe des responsabilités. Et on ne peut pas se faire appeler chef de famille si on ne respecte pas ces responsabilités-là. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Considérer le couple comme un tandem, comme une équipe, comme une alliance, plutôt que comme un bateau où lorsqu'il y aura deux capitaines, il peut y avoir chavire. Alors que même avec un seul capitaine, rien ne nous dit qu'il ne peut pas avoir un chavire. Je pense que pour parler de ma position, je vais être super, super long, parce que je peux la prendre sous divers aspects, mais je choisis de la prendre juste sur l'aspect de la société évolutive dans laquelle on est et m'arrêter là, parce que nous pouvons même aller sous l'aspect religieux, nous pouvons le prendre sous plusieurs aspects. Et moi, ça me dérange en fait que l'on attribue uniquement à l'homme la chefferie de la famille, alors que c'est un truc qui peut être partagé, des rôles qui peuvent être partagés. Et j'aimerais donner également l'exemple d'un couple que j'admire, où en réalité les rôles sont partagés, je le vois. C'est un couple que je connais, ou plutôt que j'ai connu, voilà, que j'ai connu, parce que c'est des personnes plus âgées que moi. Et en termes de finances, c'est la dame qui prend toutes les décisions, qui sait dans quoi le couple doit investir, qui sait combien les collages coûtent, ainsi de suite. Tandis que c'est à l'homme de s'occuper de tout ce qui est relation entre les familles, de tout ce qui est éducation des enfants, de tout ce qui entre guillemets, extérieurs, un peu plus extérieurs à leur couple, à la famille. Et donc, voilà. Donc, les rôles sont partagés. Il n'y a pas de chef principal et tout. Et pour parler de ce couple-là, de l'extérieur, on penserait très facilement que c'est la femme qui porte la culotte. Alors que non, les rôles sont tout simplement partagés. Donc, voilà ma position. Voilà ce que je pense. Et voilà ce que je souhaite, en fait, pour les couples de ma génération et les générations à venir, tout en mettant en exergue que chaque couple a le droit de prendre la formule qui lui plaît ou bien qui lui convient. C'est-à-dire que si le couple décide que ce soit l'homme le chef de la famille et que ça fonctionne pour eux comme ça, tant mieux. Si dans le cas contraire, c'est la femme qui est la chef de la famille et que ça fonctionne pour eux comme ça, c'est également tant mieux. Et si dans le cas où c'est tous les deux qui se partagent les rôles à tour de rôle, ou que chacun a son domaine de prédilection, où il sait prendre les décisions, où il sait convaincre l'autre partenaire que telle décision est meilleure, alors tant mieux. Parce que c'est ça le principal au final.
Et du coup, on va clore cet épisode. Je voudrais que tu nous donnes un mot de fin. Peut-être aussi si tu as des conseils par rapport à la vie d'adulte que tu es en train d'expérimenter depuis quelques années, les responsabilités que tu as. Est-ce que tu as envie de donner des conseils aux jeunes, etc., pour clore cet épisode?
Alors, conseil, ce sera trop dire. Non, moi, je n'ai pas de conseils à te donner pour en prendre un début. Je pense que la vie est une belle aventure. C'est vrai, la vie d'adulte est une farce, est une arnaque. Mais c'est une très belle aventure. Une très belle aventure au cours de laquelle nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Et il suffit de s'ouvrir, de se donner d'autres perspectives. Parce que parfois, nous avons beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à partager. Mais parce que nous nous limitons, nous n'arrivons pas à explorer d'autres horizons. Vraiment, c'est de pouvoir se dire que en tant qu'homme ou en tant que femme, je dois pouvoir savoir ce que l'autre pense, je dois pouvoir comprendre ce que l'autre dit et d'explorer, de s'ouvrir. Parce que ce que j'ai très souvent remarqué, et je le faisais avant, tout ce qui est contraire à ce que je perçois comme bon, je ne veux même pas m'en approcher. Alors que c'est parfois bien d'apprendre de ce que l'autre considère comme bon. Par exemple, je vais dire vraiment n'importe quoi. C'est que, en tant que féministe, je pourrais rencontrer une femme qui est contre la lutte, contre le féminisme, qui est vraiment totalement contre. Il y a des années auparavant, j'aurais dit, ah non, c'est même pas la peine de discuter avec cette femme-là. Si elle est contre le féminisme, c'est qu'elle ne comprend pas ce que c'est que la vie de femme, ou bien elle ne voit pas ce que le patriarcat nous fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans la même dynamique. Plutôt, j'aime les écouter. J'aime vraiment écouter les gens qui sont contre moi ou bien qui ne vont vraiment pas dans le même sens que moi. Parce que ça me permet de soit trouver des arguments, en fait, pour ma position, soit me remettre en question. Et ça me permet de tomber sur la dernière chose que j'aurais à dire, c'est vraiment se remettre en question. Ça ne veut pas dire douter de soi, mais se remettre vraiment en question. À chaque fin de journée, peut-être faire un bilan de ce que nous avons eu à faire, et se dire, est-ce que je n'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que je n'aurais pas pu faire autrement? Et est-ce que je n'aurais pas pu donner le meilleur de moi au cours de cette journée? Donc, voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Floriane, pour ce partage, ou plutôt, je dirais, ce partage dont tu as fait preuve justement dans cet épisode. Je pense que nos auditeurs nous ont écoutés. Ils ont sûrement aimé aussi le fait que tu aies parlé de ton projet professionnel, de comment tu as fait le lien aussi avec tes études et le fait que tu veux te spécialiser dans quelque chose qui aura du sens aussi pour ta vie. Et merci aussi d'avoir partagé ton opinion sur le féminisme, sur le combat pour les femmes, tout simplement. Et donc, on va clore cet épisode aujourd'hui. Merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à toi, Florian. On se dit à tantôt.
Merci. Oui, merci Edem, merci à tous les auditeurs. Donc, je pense que je reste joignable sur Twitter, sur mes pages réseaux sociaux. Si quelqu'un veut discuter avec moi, je suis assez ouverte.
D'accord, merci beaucoup Florian. Merci à tout le monde. Bye.
Bye.
Salut tout le monde, salut toi, j'espère que tu as aimé en fait ce partage de Florian pour l'épisode 10 de l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Je vais faire un bref résumé et puis faire ma conclusion rapidement, d'accord? Alors, la première chose que moi je retiens, c'est le fait que Florian ait dû s'adapter en fait au marché du travail, donc qu'elle ait dû développer d'autres compétences hein, qui vont au-delà de son cursus universitaire. Et je pense que c'est pratiquement ce que beaucoup de gens font aujourd'hui dans les universités africaines. Tu fais des études dans un domaine donné, mais tu te performes dans un autre domaine peut-être qui te passionne, ou un autre domaine ou un autre secteur d'activité qui est plus en vue en fait dans, ou qui est plus en demande dans la sur le marché du travail dans ton pays. Donc je pense que c'est très important, peut-être, de mon point de vue, de commencer à choisir des formations qui vont avec ce qu'on a envie de faire et qui s'accordent avec ce qu'on a envie de montrer sur le marché du travail. C'est très important. La seconde chose que je retiens, c'est le rôle du père de Florian dans son indépendance. Et je pense que ça relance un peu le débat de la présence des deux parents dans l'éducation des enfants. De mon point de vue, c'est important. Je pense que chacun peut s'en sortir comme il peut, mais je pense que c'est important d'avoir les deux parents. Après, ça n'empêche pas qu'un seul parent puisse s'en sortir dans l'éducation de son enfant et que cet enfant soit très très bien éduqué. Donc, je ne vais pas revenir sur le débat de la monoparentalité, mais voilà, c'est mon point de vue et je le partage avec vous. Si vous avez envie de partager votre point de vue, n'hésitez pas surtout à commenter ce podcast. La troisième chose, c'est, disons, les exigences de Florian lorsqu'il parle du fait qu'il soit à la recherche peut-être d'une personne avec qui partager sa vie, etc. Et donc, quelque part, on se dit, voilà, plus une femme est diplômée, plus ses exigences changent, ou plus elle vit certaines expériences, plus ses exigences changent. Et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est la même chose aussi avec les hommes. Et je pense que c'est à nous de savoir ce qu'on veut, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est très important. Il y a quelque chose que Florian a dit concernant les relations humaines, et je trouve que c'est très important lorsqu'elle dit qu'en fait le gourmet des relations amicales, ça fait plus mal que le gourmet des relations amoureuses. C'est pas vraiment faux, dans la mesure où lorsqu'on tient vraiment à une personne qui est notre amie depuis 10, 20 ans, ça fait mal en fait de perdre cette personne là. Ce que moi je vais dire en fait, pas seulement à Florian mais à tous ceux qui m'écoutent, c'est qu'il y a trois types d'amitié en fait. Les amitiés utiles, les amitiés utiles, c'est des amitiés qui sont vraiment intéressées. Voilà, une personne qui veut être ton ami juste parce qu'elle a un intérêt particulier. D'accord? tête parce qu'elle a besoin d'un certain nombre de choses ou d'avoir des conseils. En fait, elle est ton amie juste pour ça, en fait. La seconde catégorie, c'est les amitiés plaisantes. C'est les amitiés qui sont un peu à mi-temps, en fait, qui sont un peu à cheval entre les amitiés utiles et les amitiés vraies. Donc, les amitiés plaisantes sont, comment je vais dire ça, il y a plus de générosité. Il y a quand même une dose de sincérité un peu plus élevée, mais voilà. Pour moi, ce sont vraiment les amitiés à mi-temps. C'est-à-dire que je pense que c'est ce dont parlait Florian. Personne avec qui tu es ami, mais avec qui tu ne seras pas ami pour toujours, en fait. Pour moi, je classerais ces personnes dans les amitiés plaisantes. Et enfin, il y a les amitiés vraies, des personnes avec qui on est ami depuis pas mal d'années, avec qui on chemine, qui ne nous jalouse pas pour tout et n'importe quoi, avec qui on peut discuter de tout, vraiment de tous les sujets, sans tabou, sans jugement. Et je pense que c'est très important de dissocier toutes ces catégories d'amitié et d'essayer de se retrouver quelque part. Ce que j'aimerais aussi ajouter, Florian a dit que on a l'impression que tous les hommes sont un peu des salauds, en quelque sorte. All men are trash. Alors, j'aimerais préciser que tous les hommes ne sont pas ainsi. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et c'est pour ça que j'étais revenu justement sur le rôle des langages de l'amour. Parce que on fait pas attention à ça, en fait. Et parfois, on peut perdre un homme juste parce qu'on n'a pas su comprendre son langage de l'amour. Il y a différents types de langages de l'amour. Je vous le récite rapidement. Et vous retrouvez ces langages-là bien détaillés dans le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Alors, il y a les paroles valorisantes en premier lieu, d'accord? Ensuite, il y a les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité et le toucher physique. Vous rencontrez un homme et on a comme l'impression que tous les hommes ont comme langage de l'amour le toucher physique. C'est pas vrai. Il y a des hommes qui ont pour langage de l'amour les services rendus, d'autres les moments de qualité. Parce que justement, on pense qu'il n'y a que les femmes qui ont comme langage de l'amour les moments de qualité, ce qui n'est pas vrai. Il y a des hommes aussi qui aiment les cadeaux. Oui, il y en a. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment les paroles valorisantes. Il y a un philosophe qui disait, William James, qui disait: le principe le plus profond de la nature humaine, c'est la soif d'être apprécié. Et c'est vrai, en fait. On est un peu tous comme ça, en fait. On aime bien ça, d'accord? Et donc, si tu es une femme et que tu es avec un homme et que tu n'apprends pas à connaître cet homme et tu te dis juste que lorsqu'il est frustré ou lorsqu'il est énervé, il suffit, vous m'excusez le terme, d'avoir des relations sexuelles avec cet homme pour le calmer, vous pourriez vous tromper. Parce que si votre homme a comme langage de l'amour, je sais pas, les moments de qualité ou encore, disons, les services rendus ou les paroles valorisantes, bah, il va peut-être vouloir que vous lui dites « Ah chérie, j'ai bien aimé que tu aies fait les courses aujourd'hui. » Ou bien « Ah chérie, j'ai bien aimé ce que tu as porté aujourd'hui. » Tu vois? Juste ça, en fait, ça pourrait changer beaucoup de choses. Et c'est peut-être ça qu'il recherche auprès d'une femme, en fait. Donc, il est important de connaître l'autre parce que c'est la base, en fait. On revient toujours sur le langage de l'amour. Donc, tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a des hommes qui sont, oui, compliqués, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des hommes aussi qui veulent juste qu'on apprenne à les connaître. C'est tout aussi simple que ça. J'espère avoir aidé sur ce coup. Ce que je retiens également, c'est qu'il est important de se remettre en cause dans tout type de relation. Je pense que Florian l'a quand même fait lorsqu'elle parlait d'elle-même et puis lorsqu'elle partageait son vécu. Je pense qu'il est important de se remettre en cause, d'identifier ses propres erreurs, ses propres difficultés, des choses en fait qui font qu'on n'arrive peut-être pas à aller au bout des résultats. C'est très important. Attention au milieu professionnel lorsqu'on veut appliquer les langages de l'amour. On en a parlé un peu. Je pense que les hommes aussi bien que les femmes doivent faire attention à ça. Ce n'est pas parce que votre collègue, vous êtes un homme par exemple, et votre collègue aime les cadeaux, en fait c'est son langage de l'amour, que vous allez lui offrir des cadeaux tout le temps. Ça peut ça peut être un signe que vous lui envoyez, alors qu'en fait, c'est pas le signe que vous vouliez lui envoyer, en fait. Vous la considérez comme, comme une collègue, tout simplement. Donc, elle pourrait penser que vous vous intéressez à elle d'une autre manière. Donc, c'est très important de dissocier cela et de ne pas tout mélanger. Ce que vous faites avec votre conjointe, avec votre petite amie, avec votre fiancé, avec votre femme, etc., ou avec votre mari, ne doit pas, en fait, être appliqué scrupuleusement dans la vie professionnelle, parce que ça peut créer justement des malentendus et des incompréhensions et de gros quiproquos en fait qui pourraient vous retomber dessus. C'est très important. Ce que je voudrais ajouter également, c'est qu'on a parlé du féminisme. Je pense qu'il est important de faire attention à la définition du féminisme, parce que je pense que beaucoup de gens se méprennent un tout petit peu. Puisque les réalités sont différentes. Les réalités en Occident ne sont pas les mêmes en Afrique. Et encore, quand on parle d'Afrique, on parle du continent. Donc, les réalités sont différentes de région africaine à une autre, de pays à une autre, etc. Donc, il est important de faire attention. Au début, on avait le féminisme émancipateur. C'était ce féminisme qui défendait les droits des femmes, que les droits des femmes, en fait. Tu vois, avec le temps, on est vers, en fait, disons qu'on est en train de tendre vers le néo-féminisme. Je pense que ça existe déjà, hein, lorsqu'on entend certaines femmes parler. Le néo-féminisme, en fait, c'est ce féminisme qui est orienté vers l'égalité des résultats. Alors que le féminisme émancipateur était orienté vers l'égalité des droits, en droit, tout simplement. Vous voyez? Et honnêtement, moi, je parlerais d'équité au lieu d'égalité, parce que justement, le néo-féminisme insiste sur le mot égalité. Pour le néo-féminisme, en fait, on a comme l'impression que ce mouvement nie la diversité des individus et s'ingère dans les choix personnels. Et ça, je trouve que c'est dangereux, en fait, lorsqu'on s'ingère dans le choix ou dans les choix des individus, parce que nous sommes différents. Une femme ne peut pas être exactement comme un homme sur plusieurs points, d'accord? Là, je ne parle pas du milieu professionnel, etc. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'il faut corriger, qu'il y a des mentalités qui doivent changer, que certaines injustices doivent s'arrêter. Mais je ne suis pas sûr qu'en fait, le fait de s'attaquer aux hommes ou de s'ingérer dans les choix personnels de certaines femmes ou des couples, etc., est la chose la plus judicieuse à faire. On peut éduquer autrement, on peut faire passer le message autrement. Et je pense qu'il faut juste une certaine équité dans la manière de traiter les hommes et les femmes, justement. Sinon, on risque de renverser la vapeur et finalement, ça va être compliqué de rétablir l'équilibre. Et je dis cela parce que tout ce que nous recevons comme éducation, nous le transmettons en fait à nos enfants. Si on continue peut-être à dire que tous les hommes ne sont pas dignes de confiance, etc., et qu'on transmet cela à nos enfants vont se dire que, ah oui, bah, moi j'ai vu maman dire clairement que les hommes ne sont pas dignes de confiance, donc je ne ferai confiance à un homme. Je ne ferai confiance à aucun homme. Ou j'ai entendu papa dire que toutes les femmes ne sont pas sérieuses, donc je ne ferai confiance à aucune femme. En fait, c'est très important de créer cet équilibre-là, en fait, dans la vie de couple. Et je pense qu'on peut être tout à fait féministe et être, je sais pas trop, une bonne personne dans sa vie de couple et ne pas laisser tout cela bouleverser sa vie de couple ou bouleverser ses choix personnels. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est de faire attention au néo-féminisme qui me paraît assez radical et qui me paraît pas vraiment une bonne chose, de mon point de vue, bien évidemment. J'aimerais aussi revenir sur la question de podcast. Est-ce qu'on peut avoir deux capitaines dans un bateau lorsqu'on parle d'une vie de couple avec justement l'intrusion du féminisme dans les conceptions, etc. Je pense, selon moi, que la question, c'est une question piège que j'ai posée. D'accord. De mon point de vue, qu'on le veuille ou non, même s'il y a une complémentarité, même s'il y a un partage de tâches, de compétences, etc., comme l'a dit d'ailleurs Floriane, il y aura toujours en fait un leader, qu'on le veuille ou non. Mais ce qu'on oublie, c'est que en Afrique, on est très focalisé sur la notion de chef, comme si c'est le chef qui décide de tout. Ce qui est complètement faux en fait dans les faits. Dans les faits, ce sont plutôt les conseils qui dirigent le navire. Si tu analyses bien en fait le fonctionnement de la ville coupe de nos parents, et quand je parle de nos parents, je parle de ceux qui sont nés dans les années 50, 60, 70, qui sont nos parents aujourd'hui, au fond, on appelait ou on appelle toujours l'homme chef de famille. Mais en fait, c'est nos mamans en fait, qui dirigeaient les familles. Parce que c'est eux qui donnaient des conseils. Je vous donne un exemple très, très banal. Supposons que vous devez vous marier. Alors, vous avez papa, maman, vous devez vous marier, etc. Et que maman doit donner son accord, papa doit donner son accord, et tout. Vous allez remarquer, en fait, que dans la plupart des familles où on doit célébrer la dot, donc on doit organiser la dot, etc. Donc, la dot qui est les fiançailles, en fait, pour ceux qui ne sont pas africains, les fiançailles en Afrique, vous remarquerez qu'en fait, ce sont les mamans qui décident. Si la maman dit non, c'est non. Et vous remarquerez que généralement, les papas disent oui parce que la maman a dit oui, en fait. Donc, au fond, ce sont les mamans qui décident. Ce sont les mamans qui sont les leads, en fait. C'est juste qu'on appelle l'homme chef de famille, etc. Mais dans les faits, ça ne change strictement rien. Strictement. Rien du tout. Donc, pour moi, c'est je dirais pas que c'est une utopie, mais je dirais que c'est une forme d'illusion de penser que parce qu'on appelle l'homme chef de famille, voilà, il décide de tout, il est autoritaire et tout. Je sais que dans certaines familles ça existe, hein, je ne dis pas le contraire, mais je dis juste que pour votre vie de couple, à vous, c'est à vous de décider quelque part votre manière de fonctionner. Vous êtes une femme, votre homme, il est chef de famille pour un certain nombre de choses, d'accord, mais vous verrez que cet homme viendra vous consulter pour beaucoup de choses en fait, beaucoup de décisions à prendre. Donc quelque part, je pense que c'est ce qu'il faut instaurer en fait. Dès qu'il y a dès qu'il y a des hommes en fait qui prennent le temps de discuter avec leur femme et tout, etc., ils demeurent peut-être chef de famille, mais c'est juste un titre en fait. C'est ce que moi je peux vraiment partager là-dessus. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié le podcast. J'espère que on pourra se retrouver tantôt. Par rapport à tout ce que Florian a partagé, j'aimerais préciser quelque chose très rapidement. N'oubliez pas que la vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Alors, faites de votre vie quelque chose de juste et d'approprié, parce que vous n'avez qu'une seule vie et nous n'avons qu'une seule vie. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans le jour à venir. C'était Eden Wetoglu et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.